L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 22h30. Nous sommes au cœur d'un hiver plus morose que les autres. Dans deux jours, la nativité sera célébrée et la jolie petite ville d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, semble s'y préparer. Mais aujourd'hui, 23 décembre de l'année 1888, la cité restait muette. Une pluie, aussi drue que piquante, est tombée du lever du jour au coucher du soleil. Pour Vincent Van Gogh, les heures qui se sont écoulées aujourd'hui portent le sceau du malheur. Et alors que son ami Paul Gauguin claque la porte après une énième engueulade, Vincent s'apprête à commettre l'inimaginable. Dans quelques instants, devant la glace brisée de sa salle de bain, un geste fou d'automutilation va entrer dans l'histoire. 22h30, l'heure H de mon histoire. Irascible, sujet à des terreurs nocturnes en pagaille la nuit précédente, la tête comme un champ de bataille au réveil et les méninges écorchées vives sur le bûcher de la souffrance, le rouquin barbu venu des Pays-Bas a passé la journée à faire trembler les murs. Et comme d'habitude, depuis des mois, c'est Gauguin qui en a fait les frais. Il en a sa claque, le jovial parisien. Lui est venu de Montmartre pour travailler sur un projet qu'il souhaite lancer avec le barbu à la pilosité couleur feu. Au lieu de construire ensemble, pierre par pierre, ce plan qui leur tient pourtant à cœur, ils sont tombés dans le piège de juger leurs différences. Et c'est ainsi qu'ils ont fini par se haïr, comme un vieux couple rongé par les non-dits et les culpabilités ténues. Il faut dire qu'elle avait mal commencé cette journée pour Van Gogh. Comme presque tous les jours, une lettre de son frère Théo est arrivée au courrier. Son frère, qui est le pilier de sa vie aussi chaotique que sa santé mentale, lui annonce pourtant une bonne nouvelle. Du moins, c'est ce qu'il croyait en le faisant. C'était certainement son objectif. Théo va se fiancer. Pipe à la bouche, Van Gogh se passe la main dans ses cheveux hirsutes et mal peignés et relit une deuxième fois le paragraphe. Celui du malheur pour lui. Voilà que la dernière personne qui est encore là pour le soutenir lui échappe. Les fiançailles de son petit frère sonnent le glas de leur relation privilégiée et de l'importance que tient Vincent dans sa vie. S'il crée sa propre famille, il pense qu'il le laissera tomber. Bon sang, mais quel dimanche! Mardi, ce sera Noël et un goût amer en bouche, Vincent tente de calmer les pulsions qui l'assaillent. Son hypersensibilité chevillée au corps, les larmes le long de ses joues coulent dans le torrent déjà versé depuis des mois. Ces eaux qui n'ont cessé de s'évacuer font leur ouvrage, à la manière de ces rivières et de ces rapides au cœur des Bouches-du-Rhône qu'il a peint de nombreuses fois et creusent les rides sur son visage. C'est au moment où sa pipe s'éteint sous le flot de cette cascade de larmes que Gauguin entre dans la pièce. Il est trempé et porte une toile inachevée sous le bras. Un chapeau melon posé sur son front large et dégarni, il est physiquement très différent de son ami. Vincent est le stéréotype du peintre pauvre et torturé. Petit, chétif, maladif, les cheveux sales et la barbe pleine de nœuds. Ses yeux de braise regardent son collègue arriver d'un air agressif que Gauguin commence à bien connaître de la part de son alter ego. Oh, lui n'est pas beaucoup plus beau que Vincent. Un grand nez en forme de bec prend une place folle sur un visage aux traits abstraits. Ses cheveux tirés vers l'arrière tombent sur ses épaules et cachent des oreilles trop grandes à son goût. Une moustache, rugueuse et bien taillée en ce jour de fête, frétille. Il a une bonne nouvelle. Sa toile est presque terminée. Il est allé s'installer sous le perron de l'immeuble pour regarder et étudier la pluie. Il a observé les gouttes, toutes les gouttes, fines, larges, grandes, petites, rapides ou lentes, leur volume, leur densité, tout a été analysé. Paul Gauguin rentre donc tout heureux pour montrer le résultat à son acolyte. Mais au lieu de ça, le lion rouquin, penché sur la lettre de son frère, bondit de son siège et se met à lui hurler dessus. Une nouvelle dispute éclate alors entre eux sans aucun coup de semonce. Leur cohabitation n'en est pas une. C'est une bataille rangée, un Waterloo, un Tannenberg. On se tire dessus à coups de canon. On se file des coups de baïonnette sans réfléchir. On fait une trêve durant la nuit et le lendemain, ça repart encore et encore. Le cercle vicieux du conflit constant, on ne s'écoute même plus parler, on crie, on hurle. Le rationnel devient irrationnel. Van Gogh, victime de nombreuses hallucinations, parfois visuelles, parfois auditives, ne parvient plus à se retenir. Il ne cesse d'exploser, chaque fois un peu plus fort. Mais aujourd'hui, à cause de l'annonce de la nouvelle des fiançailles de son frère, le terrain est particulièrement miné. Gauguin, après avoir envoyé un dernier obus en direction de Vincent, prend son sac, sa toile sur le dos, sort de la maison en claquant la porte. Fin de l'histoire. Il en a plus que marre de ses insultes et de ses crises de jalousie et de la paranoïa de son collègue et ami. Il est venu pour qu'ils travaillent ensemble sur ce projet, sans cesse reporté. Il repart dès le lendemain par le train en direction de la capitale. Il a besoin du calme de son atelier et des oiseaux de la butte Montmartre. Seul dans l'obscurité maintenant tombée, Vincent perd pied, totalement. Il renverse les chaises et la table de la salle à manger de colère, hurle dans l'appartement tout le mal qu'il pense de la décision de son frère, de l'incompréhension de son ami Gauguin. Ces heures vides, durant lesquelles il ne se passe rien ou presque, sont marquées par de nouvelles crises de larmes et de colère. Le visage rouge tomate, les dents serrées et les yeux exorbités. Cette laideur qui est la sienne et qu'il porte au quotidien ne cesse de s'accentuer. Les voix dans son esprit lui parlent. Elles voudraient l'inciter à faire des choses totalement immorales et dramatiques. Et l'une d'entre elles va savoir se frayer un chemin de l'inconscient au subconscient du peintre et le forcer à agir. Avant que Paul Gauguin ne claque la porte, il l'a menacé d'un rasoir. L'ustensile traîne sur sa planche à dessin. Vincent s'en saisit, se dirige vers la salle de bain. Il ne pleure plus. Il est déterminé. Il est en colère. D'un geste précis, chirurgical, sans qu'aucun cartilage n'émette une quelconque résistance, il se tranche l'oreille gauche au niveau du lobe. L'organe tombe mollement dans l'évier et là, une fontaine de sang, semblable à celle de ses larmes qu'il connaît bien, jaillit en jet inconstant. Machinalement, le peintre se dirige vers sa chambre, attrape ses draps et éponge la blessure comme il peut. Soudain, il pense à Rachel. Oui. Oui, Rachel, cette femme de ménage du bordel d'Albi qu'il connaît bien et qu'il respecte. La jeune femme de 19 ans a le bras déformé par une blessure à la suite d'une morsure de chien cautérisée au fer rouge. Alors, comme un cadeau à sa nature défaite, comme la sienne, il va lui offrir une partie de son corps, celle qui l'a tranchée, son oreille gauche. À peine chaussé, il traverse la ville à toute vitesse, comme un damné. Il arrive devant la maison close, il frappe à la porte, demande la femme de ménage. La gérante le laisse entrer, va chercher la dulcinée qui se retrouve aussitôt avec dans les mains un morceau de papier journal. À la découverte du lobe sanguinolent, la jeune femme tombe dans les pommes. En réalité, Van Gogh ne connaît même pas son vrai prénom. En réalité, elle s'appelle Gaëlle et elle restera traumatisée pour le restant de ses jours. Vincent Van Gogh, lui, sera hospitalisé. Il y passera les fêtes de Noël, retrouvant son atelier qu'au début de l'année 1889. À son frère Théo, Paniqué, ulcéré par un tel geste, il dira qu'il ne s'agit que d'une toquade d'artiste. Cette réponse est finalement à l'image de sa vie. Tourmenté, hypersensible, torturé. Génial, magnifique, brillante. Voilà qui est le personnage que je vous présente aujourd'hui. Un peintre à la touche unique et exceptionnelle au mal de vivre, omniprésent. Notre histoire commence 17 ans plus tôt. Nous sommes en 1873, en plein cœur de Londres. Vincent Van Gogh a 20 ans et il n'est pas peintre. Enfin, pas encore. Il vend simplement des tableaux dans l'entreprise de son oncle où il a fait 4 ans d'apprentissage. La vie est belle et les doutes n'ont pas encore envahi le ciel de Vincent. Du moins, c'est ce qu'il pense. En réalité, il essaie de se persuader que tout va bien et que ce métier lui plaît, mais il n'en est rien. Un arc-en-ciel traverse le ciel de la capitale de l'Empire britannique et la statue de Nelson à Trafalgar Square, couverte de feuilles d'or, se reflète sur tous les bâtiments qui l'entourent. Un jeune homme à la mine studieuse marche d'un pas affirmé sur le trottoir, vêtu d'un beau costume bleu marine et d'un petit chapeau d'artiste. Le jeune Vincent va rejoindre son oncle dans un café au bord de la Tamise. Il a une idée en tête. Un grand amateur d'art d'un quartier voisin met en vente une partie de sa collection. Et dans le lot, il y a un Goya, magnifique, et recherché depuis longtemps par les marchands. Une belle trouvaille pour le nouvel engagé de l'entreprise Goupil & Co. Celui qui est né aux Pays-Bas 20 ans plus tôt est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Son père est pasteur et lui aussi est très croyant à cette époque. C'est la période la plus heureuse de sa vie. Il a 20 ans. L'un des barbus les plus célèbres de l'histoire n'est encore qu'un jeune imberbe aux longues boucles et sa chevelure de feu est source de succès. Il gagne déjà plus d'argent que son père. Dans la métropole londonienne, il est comme un poisson dans l'eau. Studieux et alerte, il parle couramment le français et l'anglais. Un jeu d'enfant de se fondre alors dans cette ville des plus cosmopolites. Vincent Van Gogh est un jeune homme assidu qui fait la fierté de sa famille. Son oncle est persuadé qu'un jour, il reprendra le flambeau. Il faut dire que cette petite entreprise familiale prend un essor insoupçonné et le succès bientôt au rendez-vous. Tout est au beau fixe donc, d'autant que, chez sa logeuse, Vincent rencontre une femme dont il tombe amoureux au premier regard. Eugénie, c'est son nom, n'est autre que la fille de sa propriétaire. Durant de longues semaines, il hésite. Doit-il l'aborder ? Sera-t-il à son goût ? Le poids de la souffrance silencieuse et de ses incertitudes ne l'emporte finalement pas. Et il se décide, un soir en rentrant de son service, à lui demander d'aller dîner avec lui. Et pourquoi pas au café de la Tour de Londres ou à Camden Town, le QG des artistes qu'il commence à bien connaître. Mais sa déception, comme souvent lors des premiers amours, est rude. La belle Eugénie est amoureuse du précédent locataire. Alors que pour le commun des mortels, la souffrance sentimentale est un fardeau à porter comme un autre, chez Vincent, cette frustration est insurmontable. Elle réveille des démons installés en lui depuis l'enfance. Il est détruit totalement par ce refus. D'une manière telle qu'il ne peut lui-même expliquer. Alors il s'isole. Bientôt, celle qui lui a brisé le cœur raconte à sa mère la cour que son locataire vient de lui faire. Le courroux de la vieille s'abat comme la guillotine un matin d'hiver. Elle fiche Vincent Van Gogh à la porte. Le jeune homme s'enfonce alors de plus en plus dans une solitude presque morbide, dans sa nouvelle chambre située loin des quartiers qui bougent, qui vivent. Il va alors chercher du réconfort et le trouver dans la religion. La ferveur qu'il développe ira même jusqu'à déranger sa famille, dont le patriarche, je vous le rappelle, est pasteur. Tous ses proches sentent bien ses failles et son mal de vivre constant. Son oncle le transfère à la succursale de La Haye à la fin de l'année 1873. Là, Son travail n'est pas satisfaisant, ce qui conduit à une énième mutation, à Paris cette fois, au cœur de l'été 1875. Le siège principal de l'entreprise l'accueille au 9 rue Chaptal. Sans aucune raison apparente, Vincent se saborde, critique la politique de l'entreprise auprès de ses clients qui le rapportent à l'oncle du jeune homme. Et cela commence tout doucement à attiser la colère de son aîné. Après un gala où Vincent ne parvient pas à tenir sa langue, les conséquences sont terribles. Il est renvoyé, mais cela lui importe peu. Il a trouvé sa vocation. Il sera pasteur. À la Noël 1876, il retourne habiter chez ses parents qui le poussent à se faire embaucher dans une librairie du centre-ville. Oh, il ne s'y plaît pas. Son sale caractère est un frein aux ventes et de toutes les manières, il passe son temps dans l'arrière-boutique à griffonner des dessins ou à traduire des passages de la Bible qu'il tente d'apprendre par cœur. Ses lettres à son frère Théo, les premières des 672 écrites en 15 ans, comportent de plus en plus de références religieuses. Et sa famille doit se rendre à l'évidence. Sa force de caractère et ses penchants religieux le conduisent à Amsterdam afin qu'il puisse y devenir pasteur. Mais par deux fois, il échoue dans ses études de théologie, d'abord aux Pays-Bas, puis à Laeken. Il abandonne en 1878. Il sera prédicateur laïque. Sa première mission d'évangéliste va participer à la construction de son hypersensibilité et surtout à l'inspiration de l'artiste qui sommeille déjà en lui, en silence. Cette mission se situe au cœur du Borinage, en Belgique, auprès des mineurs. Colfontaine, Coëm, Wam, il traverse la région et tente d'apporter joie et réconfort à ces hommes dont le métier est particulièrement dangereux. Il est même parfois mis à contribution en descendant au creux du puits pour remonter un camarade blessé à la suite d'un coup de grisou. Mais son âme de meneur ne plaît guère au comité qui pilote ses activités et qui le pousse au départ. Nouvelle désillusion, une fois de plus. Il se retrouve suspendu de ses fonctions et sonné. Sa famille l'incite à rentrer chez lui car il est totalement désœuvré. Les tensions avec ses proches sont croissantes. Il se dispute avec son frère Théo, dont il est pourtant très proche. Pendant près d'un an, la communication est interrompue entre les deux hommes. Leur père s'en mêle, prenant le parti du cadet. Nouvelle situation de crise, nouvelle difficulté. Face à sa détresse psychologique, son père tente même de le faire interner de force. Vincent s'enfuit, retourne chez ses amis mineurs en Belgique, puis finit par rentrer une nouvelle fois chez lui durant une période d'accalmie. Ses dessins de la librairie ont créé chez lui une nouvelle vocation. Il commence à observer ses proches et son environnement d'un œil nouveau, celui d'un artiste. Dans le même temps, sa vie sentimentale prend un nouveau tournant. Il convoite la fille de l'un de ses oncles qui repousse ses avances. Mais le jeune homme insiste et provoque une nouvelle guerre familiale. Son père, encore une fois, ne le comprend pas. C'est la rupture. Nous sommes en janvier 1881. La carrière d'artiste de Vincent Van Gogh démarre dans un petit atelier de La Haye. Mais il est en proie aux démons les plus incontrôlables.
L'heure H. Jean-Louis La Haye.
Aujourd'hui, L'heure H s'intéresse à l'œuvre et à la personnalité de l'un des peintres les plus connus au monde, Vincent Van Gogh. Alors que rien ne le destine à la peinture, l'artiste autodidacte a été, avant de se ranger derrière les pinceaux, marchand d'art, puis prédicateur dans les mines du Borinage. Les relations compliquées qu'il entretient avec les femmes, mais aussi avec sa famille, participent à le faire plonger dans un état mental dont l'hypersensibilité et l'irascibilité sont les moteurs. 1881 marque le début d'une carrière difficile où les déceptions s'enchaînent. Ce n'est qu'en 1886 qu'une révélation lui saute aux yeux alors que son frère Théo l'invite à le rejoindre dans l'un des quartiers les plus artistiques au monde, la butte Montmartre, sur les hauteurs de Paris. Nous sommes le 15 mars 1886, tout en haut de la butte Montmartre. Autour de nous, en ce frêle matin de printemps, les gouttes de rosée, le chant des rouges-gorges, le moulin rouge, les autres cabarets. Et la toute nouvelle basilique du Sacré-Cœur, ouverte 10 ans plus tôt. Vincent Van Gogh est à Paris depuis 10 jours. Il loge au Tambourin, boulevard de Clichy. Un cabaret, bien entendu. Il est un peu privilégié. Il s'est lié à la gérante. Disons même pudiquement que c'est son amant. Et donc, il a le droit à une chambre particulière. L'air de Paris a sur notre peintre un absolu pouvoir de régénérescence. Comme si, tout en haut de ses escaliers menant à la basilique, il avait trouvé la fontaine de Jouvence. Van Gogh s'habille en vitesse, enfile son marcel et ses bretelles et sort dans la rue. Il semble courir tant son pas est chaloupé. Il s'arrête chez les boulangers du quartier, Marcel et Mireille, achète un croissant et file retrouver son frère Théo. C'est lui qui l'a invité à venir séjourner à Paris. Son petit frère gère une galerie d'art. Ils se sont tous réconciliés après que Vincent ait dû subir une hospitalisation pour une maladie vénérienne contractée aux Pays-Bas. Van Gogh entre dans sa 33e année. Il améliore encore son art alors que d'autres sont déjà à leur summum. Il n'a commencé qu'il y a 6 ans, à l'aube de ses 27 ans. Avant d'arriver dans la ville Lumière, il a fait face à une panne d'inspiration aussi dommageable que destructrice. Enfin, ça c'est de l'histoire ancienne. Ah bah tiens, voilà son frère, adossé contre un arbre du boulevard, conversant avec l'un des peintres de la galerie. En avançant vers eux, il voit Théo donner de l'argent à l'artiste. Une de ses toiles vient d'être vendue. Le vénard. Lui, en 6 ans, rien. Pas un seul denier récolté pour son travail. Et puisqu'il a la confiance de son frère, Vincent se sent capable de tous les miracles. Ils s'embrassent, échangent quelques banalités et se dirigent vers leur destination. Ils vont réveiller Paul Gauguin. Van Gogh est exalté, transporté par la ferveur du climat artistique parisien. Le monde de la peinture est en plein renouveau et Paris est son poumon. Voilà que vient le temps de l'impressionnisme, magnifique synthèse du monde et de représentation du caractère éphémère de la lumière sur les formes et les couleurs. Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Cézanne, c'est la naissance d'une génération d'artistes plus talentueux les uns que les autres. Vincent y aura toute sa place, mais ça, il l'ignore encore. Gauguin, qu'ils vont voir aujourd'hui, s'inscrit plutôt dans un courant postérieur, celui que l'on a appelé le post-impressionnisme. La version évoluée de la première génération, si vous préférez. En 1886, Gauguin, bien caché, attend donc de dévoiler son talent au monde. Mais il s'imprègne, tout comme Van Gogh, de cette ferveur propre à Paris et à Montmartre. L'art, le renouveau, les expériences, l'odeur de la peinture et le grincement des chevalets à chaque coin de rue. S'il fallait résumer l'apport de Paris au progrès artistique, ce serait le mot « Montmartre » qui conviendrait certainement le mieux. Gauguin est pris au saut du lit et bientôt les 3 amis courent dans la rue, rient à gorge déployée en subissant les remontrances du voisinage. Ils vont visiter une exposition qui fera date, la 8e et dernière exposition des impressionnistes. Pour Vincent, c'est une véritable révélation. Il ne va cesser de travailler son renouveau, produisant chaque jour, changeant son style, quittant le monde de l'obscurité et de la misère humaine qu'il aimait jusque-là représenter pour se lancer dans une série d'autoportraits qui auront, en 1889, 37 déclinaisons. Une folie. Il se déchaîne, crée, met en forme, reprend, jette, recommence, sans cesse. Sans s'arrêter. Il peint pour aller mieux, pour oublier, pour courir plus vite que la dépression, plus vite que l'idée de mourir qui le ronge déjà, pour s'éloigner de ce monde insensible qu'il ne supporte déjà plus non plus. Comme le coureur athénien après la victoire de marathon, c'est la course à l'épuisement, à la création, au renouveau total sans compromis. Vincent se noie dans l'absinthe, dans l'alcool, se crame chaque soir les neurones dans les cabarets. Il rentre, déchiré dans sa chambre, et continue ses créations, encore, toujours. Tout son entourage a bien conscience de cette vertigineuse chute dans le vide sans contrôle ni prise. Lui, comme le petit poucet, laisse des toiles, toujours plus, pour marquer sa trace. D'un autoportrait à l'autre, on distingue les bons des mauvais jours. Sombre, avec chapeau, fumant la pipe, le regard noir, l'obscurité sur ses épaules, le ciel bleu derrière son dos, tout y est. Il marche dans tout Paris, une toile sur le dos, les yeux à la recherche de la moindre inspiration. Il est inlassable, ne cesse d'avoir faim de toile. Il n'en vend aucune, mais il croit en son talent, en ses capacités. Un jour, une allée du Jardin du Luxembourg, un autre, le restaurant de la Sirène, les moulins de Montmartre, les gens qui passent dans la rue. Tout est bon. Il flanche, marche sur une corde raide, mais continue d'avancer, sans cesse, sans s'arrêter. La fatigue l'assaille. Son frère, inquiet, lui fait la remarque plusieurs fois que son état est préoccupant, mais un peu d'absinthe et c'est reparti pour un tour de manège. Une journée, une toile de plus. Créateur compulsif et dérangé, au fond, Vincent nous interroge sur notre perception de ce qu'on appelle communément la folie. Et si la folie n'était au fond que l'expression d'une sensibilité différente, incompatible avec le monde si réaliste qu'on nous impose partout? Une incompatibilité sociale devrait-elle être mise au banc ou encouragée, poussée dans ses limites les plus extrêmes pour nous livrer ses racines, son essence? Si Van Gogh est fou, n'est-il pas sain d'être fou? Ce créateur de génie vit à Paris. Deux prolifiques années de création qui l'épuisent et le rendent dépendant à l'alcool. Créer a toujours un prix, toujours. Les artistes, quels qu'ils soient, se nourrissent bien souvent de leurs failles. Des trous noirs de leurs âmes pour offrir à leurs spectateurs, auditeurs, admirateurs, des messages subliminaux et impressionnants. Pour Van Gogh, c'est l'éclat de la souffrance psychique sur le monde, la surbrillance de l'hypersensibilité sur le réel, la beauté de ce qui dérange le monde dans lequel il vit, et sa façon de le représenter, parfois brute, parfois enjolivée, surlève tout. Elle lui parle, cette magnificence, à lui, à son frère, à ses amis. Personne n'achète ses toiles ? Bien tant pis, il vit pour son œuvre, y verse son âme et ses démons. Cependant, fatigué, épuisé, accro au moulin de la butte et à l'absinthe, il est poussé au départ par son frère. Vincent quitte Paris, 2 ans après son arrivée, le 19 février 1888. Direction, le sud de la France, pour cultiver son impressionnisme. C'est à Arles, à l'endroit même où aura lieu l'épisode de l'oreille coupée, que Van Gogh pose ses valises le 20 février 1888. Il réside dans ce qu'on appelle la Maison Jaune, pour la bonne raison qu'il repeint lui-même la totalité des murs dans cette couleur. Il neige lors de son arrivée. Il représente un paysage enneigé comme introduction à un nouveau chapitre de sa vie artistique. Il découvre la lumière provençale, si crue, si belle, si différente. Rapidement, il est catalogué par les locaux comme cet homme bizarre et barbu qui marche à travers la campagne avec un chevalet sous le bras et une toile. Au moindre mouvement d'oiseau, de vent dans les branchages ou d'éclat particulier du soleil, Vincent s'arrête et peint. Son frère le nourrit, lui envoie de l'argent régulièrement. Une fois, alors qu'il reçoit un billet de 100 francs, il part direction Sainte-Marie-de-la-Mer pour 5 jours. Il y peint la barque Amitié, tout un symbole. Gauguin, pour l'aider dans de nouveaux projets, le rejoint au mois d'octobre 1888. Van Gogh réalise, lui, des séries de portraits de gens qu'il rencontre, parfois des triptyques de paysages. Mais alors que leur entente aurait pu être la source d'une collaboration extraordinaire, cette exaltation permanente qui les pousse à la création provoque entre eux une électricité telle que 2 mois plus tard, Gauguin claquera la porte pour de bon. Et Vincent se tranchera l'oreille. Le lendemain de l'incident, il est admis à l'hôpital, soigné par le docteur Ray. Il va peindre son portrait. Magnifique signe de reconnaissance envers un homme qui lui apportera du réconfort. Son frère descend aussitôt pour le voir, puis remonte à Paris le jour de Noël. Il a une fiancée maintenant. Les crises du peintre ne plaisent pas aux habitants de la ville d'Arles, qui fait exceptionnel, signe une pétition en nombre pour provoquer son internement ou son expulsion pure et simple de la ville. Pour autant, aucune mesure n'est prise. En mars 1889, un autoportrait à l'oreille bandée fait sensation, mais de nouvelles crises arrivent, incessantes, comme des charges de cavalerie qui fondent sur des fantassins apeurés et embrouillés par la fumée des combats. Il est interné de force par le maire de la ville à l'hôpital, change d'appartement, mais doit se résoudre à partir cette fois, à suivre un traitement psychiatrique de sa propre volonté. Ce sera chose faite le 8 mai 1889 à Saint-Rémy-de-Provence. L'artiste refuse de quitter cette région dont il est tombé amoureux. Il peindra à Arles ses fameux tournesols et sa chambre, que nous avons tous étudiés lors de nos cours d'art appliqué. À cette période, son frère se marie à Amsterdam. Il ne se rendra pas à la cérémonie. Gauguin, lui, après cette dispute qui aurait pu marquer la fin de leur amitié, poursuit une relation épistolaire intense avec Vincent. Jusqu'à la fin de sa vie, l'artiste va chérir les mots de son ami venant de Paris et qui lui permettent, à distance, de s'imprégner des nouveaux mouvements à la mode. Mais il a beau faire ses bagages une nouvelle fois, sauter dans le premier train et tenter de laisser ses démons sur le quai, ils finissent toujours par revenir. Il s'incruste dans son train, sans payer de billet, et remonte les allées avec froideur pour s'installer à côté de lui, sans aucune invitation. La folie gagne du terrain. L'expression artistique, dans le même temps, entre dans une nouvelle phase, celle de sa plus belle création, la nuit étoilée.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est consacrée à un génie incompris de la peinture impressionniste, Vincent Van Gogh. Torturé par des démons qui le pourchassent sans cesse depuis des années, l'artiste évolue au gré des influences qu'il rencontre, d'Anvers à La Haye, en passant par Paris, avant de tomber amoureux des paysages et de la luminosité de la Provence. Séjournant d'abord à Arles, puis maintenant à Saint-Rémy-de-Provence, où il a choisi de se faire interner à la suite d'incessantes crises. L'une d'elles le poussera à se trancher l'oreille à la suite d'une dispute avec son ami Gauguin. Cette phase de sa vie, la dernière, sera aussi la plus malheureuse. Nous sommes le 27 juillet 1890. Au début d'un après-midi radieux, le soleil brille de mille feux, les oiseaux chantent. Vincent Van Gogh crapahute dans la nature. Mais il n'a pas son matériel dans le dos, non. Non, pas cet après-midi. Ce matin, il a terminé son œuvre Racine d'arbre, un énième tableau. Il passe 70 jours à Auvers-sur-Oise. Il produit 70 toiles. Mathématiques. Mais les crises, depuis quelques semaines, sont revenues. Avec une force inédite. Vincent est fatigué. Il n'en peut plus. Ses hallucinations auditives, visuelles, le hantent. Face à lui, des formes, des paysages imaginaires se dessinent. Les branches des arbres se déroulent, se tortillent. Les champs changent de couleur. Le ciel qui brille de clarté se transforme en sordide théâtre de tempêtes et d'orages. La mort et ses spectres, eux aussi, sont là. Vincent veut les fuir. Il voudrait hurler, courir. Il peut le faire. Comme paralysé par ses angoisses, il touche le fond. S'enfuir n'est plus possible. Alors quoi faire? De sa poche de pantalon, on ignore d'ailleurs comment il a pu se procurer cette arme mortelle, il sort un revolver. Alors que les cavaliers de l'Apocalypse s'approchent de lui au petit trot, sortant du hêtre qui se trouve devant lui, il se tire une balle dans la poitrine. Le sang jaillit de la plaie. Il s'écroule, mais ne meurt pas. Ses visions, pourtant, ont disparu. En détresse respiratoire, il se relève, titube, remonte dans sa chambre de l'auberge Ravoux après avoir traversé tout le village, blessé par balle. Comme si quelque chose en lui refusait de mourir. Ses gémissements vont attirer l'attention du gérant qui envoie un messager à Paris pour prévenir Théo du drame. Le docteur Gachet, ami du peintre, est à son chevet et lui pose un bandage de fortune. Pas d'opération possible. C'est une vilaine blessure. De celles qui, comme lorsque l'estomac est touché, ne laissent pas de répit, pas d'espoir, mais d'intenses souffrances qui se prolongent et qui n'emportent pas tout de suite les victimes. Théo Van Gogh, malade lui aussi, arrive au chevet de son frère. Triste tableau que celui-là. Le 29 juillet, le génie créateur s'éteint, son esprit quittant les lieux par la lucarne de la petite chambrée. Il avait 37 ans seulement. Théo, dévasté, rentre à Paris. Il ne survivra pas longtemps à son aîné. Atteint de syphilis et de troubles neurologiques, il meurt à l'âge de 34 ans. En janvier 1891. Les deux frères sont enterrés côte à côte dans le petit village de Auvers-sur-Oise. Un tapis de lierre recouvre les deux tombes, accompagné comme un symbole de tournesol. Ce pourrait être la fin de l'histoire, mais il reste un dernier mystère à élucider. Quel était donc ce mal qui a rongé le peintre tout au long de sa vie ? Plus de 900 dessins et lettres permettent aujourd'hui d'apporter quelques réponses. Oh, la question est épineuse et le nombre de professionnels qui se sont penchés sur le cas Van Gogh donne tout bonnement le tournis. Une trentaine de diagnostics différents ont été posés par plus de 150 psychiatres de tous horizons. La psychologie du personnage fascine. Alors d'après vous, quel est le diagnostic ? Il est large. Comme vous vous en doutez, schizophrénie, épilepsie du lobe temporal, saturnisme, syphilis ou bipolarité, le tout aggravé par une malnutrition sévère, les insomnies, le surmenage et surtout, l'addiction à l'absinthe. Un cocktail particulièrement explosif. On suppose également que le docteur Gachet, qui reste à son chevet à la demande de son frère, à sa sortie de l'hôpital psychiatrique de Saint-Rémy, lui a prescrit de la digitaline. Un médicament utilisé à l'époque contre l'épilepsie. Et ses effets secondaires sont nombreux, provoquant notamment un changement de perception du spectre de couleur, avec une accentuation de la couleur jaune. Perturbant, n'est-ce pas ? Mais rien ne permet aujourd'hui de prouver la prise de ce médicament. Le mystère Van Gogh reste entier, ce qui participe certainement à le rendre si beau et impénétrable encore aujourd'hui. Et je vous propose de nous quitter avec les derniers mots de ce génie de l'art pictural de la fin du XIXe siècle. Sur son bureau, le jour de sa mort, un projet de lettre adressé à son correspondant de toujours, son frère Théo. Inachevé, ce courrier est le dernier moyen d'expression utilisé par le renfrogné néerlandais à la barbe de feu. Saisissant, certains de ces mots y sont lourds de sens et au fond, résument parfaitement bien le prix payé par son processus de création. Mais pourtant, mon cher frère, il y a ceci que toujours je t'ai dit, et je le redis, par mon intermédiaire, tu as ta part à la production même de certaines toiles qui, même dans la débâcle, gardent leur calme. Eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie et ma raison y a fondu à moitié. Vincent Van Gogh, qui n'a vendu qu'une seule toile de son vivant, est aujourd'hui l'un des peintres les plus cotés. La dernière vente de l'une de ses toiles a atteint la somme faramineuse de 31,35 millions d'euros en 2021. C'était une petite aquarelle rappelant les périples dans la campagne provençale de l'artiste, sobrement intitulée « Meule de foin ». Voilà donc pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de vous raconter grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.